à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, il est 20h, passé de 31 minutes, c'est l'heure du journal radiophonique amplifié, on est bien tous là au studio de l'ENS avec nos petites lampes allumées, l'équipe est autour de moi pour toute une actu, mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée.
Au programme aujourd'hui, on commence par le journal avec du national, des européennes, la Birmanie et un point sur le nucléaire iranien. Il y aura la revue de presse, la notion pourrie d'Arthur sur l'ENA, des pieds dans le tapis de Rémi et un journal de la culture qui aujourd'hui sera fait par Marie et Arthur, une musicienne, et on ira sur le chemin de l'école avec un autre Arthur.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Et tout de suite, on démarre avec le journal et ça commence avec le national, Marie.
Oui, c'est ça, et c'est Benoît qui va nous faire un point sur les élections européennes.
Alors en effet, alors que les élections européennes du 26 mai s'approchent de semaine en semaine, l'air de campagne devient de plus en plus palpable, sur fond de forte mobilisation sociale. La liste de la majorité a dévoilé aujourd'hui son programme pour les élections. Je cite « Nous pouvons reprendre le contrôle du destin de l'Europe » et le nouveau motto du parti, se positionnant résolument face à une croissance des gouvernements populistes en Europe. L'enjeu de l'élection y ressort comme référendum pour ou contre le projet européen. Au sein de ce texte voulant rassembleur, la proposition de créer une banque pour le climat, de taxer les géants du numérique, de poursuivre le projet d'armée européenne, de développer les échanges Erasmus, de responsabiliser les entreprises pour respecter, je cite, « nos valeurs dans la mondialisation », un programme progressiste donc, au sens tout macroniste du terme, qui reste ainsi dans la veine de son parti, une façade d'enjeux sociaux vaguement dessinée et des solutions somme toute très libérales.
On passe ensuite, puisque l'on parle des élections européennes, à une affaire qui pourrait porter préjudice au Rassemblement national qui occupe jusqu'à présent les premières places dans les sondages. Le Canard Enchaîné et Challenge ont en effet accusé Jordan Bardella, tête de liste du RN aux européennes, d'emploi fictif au Parlement européen. Les journaux dénoncent un usage irrégulier de l'indemnité d'assistant parlementaire et précisent la situation. La tête de liste de 23 ans aurait été assistant parlementaire de l'eurodéputé RN Jean-François Jalck à mi-temps, et ce pour un coût total de quelque 10 400 euros, alors même que Bardella était aussi secrétaire départemental du RN en Seine-Saint-Denis et chargé de mission au pôle veille et prospective du FN et qu'il n'aurait pas ou très peu travaillé pour M. Jalck. Des accusations que Bardella a vite balayées d'un revers de la main, évoquant, on s'en doutait, une vile manipulation politique. « Je ne suis mise en cause nulle part par la justice française », a déclaré le candidat. « On essaie, je cite, de salir ma candidature, car certains journalistes sont prêts à tout pour sauver le soldat Macron. » Une révélation qui intervient alors que le RN est soupçonné d'avoir utilisé les fonds de Bruxelles pour salarier fictivement des assistants parlementaires européens, travaillant en réalité, non pas pour le Parlement, mais pour le RN français. Une affaire, une de plus d'ailleurs, dont les suites ne sauraient se faire attendre. Benoît, tu nous parles maintenant de la grève des fonctionnaires.
Eh oui, les fonctionnaires appelés à la grève ce jeudi ont été 108 900 dans les rues partout en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 250 000 selon la CGT, contre le projet de loi supposé moderniser leur statut, qui passera devant l'Assemblée lundi prochain. Ce jeudi fut ainsi la quatrième journée de mobilisation nationale dans la fonction publique depuis le début du quinquennat, et la première à rassembler unanimement les 9 organisations syndicales du secteur public. Ces derniers dénoncent une réforme grave que le gouvernement cherche à faire passer en force, afin d'aligner les règles de la fonction publique sur celles du privé. Ceci, au dépit du statut de fonctionnaire et de l'indépendance des agents. L'objectif de la loi, outre le recours plus massif à la contractualisation de ces travailleurs, est celui de la suppression de 120 000 postes d'ici à 2022, jugé atteignable par le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin. En attendant les premiers débats parlementaires, les syndicats ont assuré que cette journée de manifestation ne serait qu'une étape de leur mobilisation.
Et pour finir, Mathilde, un point sur le sommet G7 de l'environnement à Metz, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Du samedi 4 au lundi 5 mai, la ville de Metz a reçu le G7 des ministres de l'Environnement, un sommet pour préparer un autre sommet qui sera annuel et qui se tiendra en août à Biarritz. Les militants écologistes et des Gilets jaunes ont défilé, ils étaient plus de 3000, avec un déploiement important des forces de police, pour dénoncer ce sommet inutile et pour rappeler que l'écologie n'est pas soluble dans le libéralisme. Des militants de l'Alter G7 ont également joué dimanche une scène de catastrophe naturelle devant la gare pour dénoncer la mascarade des grandes puissances face à l'urgence climatique.
Et tout de suite, on passe à l'international, Marie.
Oui, c'est ça, on commence par un petit peu de positif, puisque la Birmanie a libéré hier 2 journalistes de Reuters qui ont passé plus de 511 jours en détention, accusés de violation de secret d'État. Les deux hommes, qui ont reçu le prestigieux prix Pulitzer pour leur reportage « Massacre au Myanmar », enquêtaient sur l'exécution de paysans Rohingyas par des soldats birmans. Alors qu'ils allaient découvrir et annoncer la vérité sur l'extermination des Rohingyas, la police birmane avait tendu un piège à ces deux journalistes pour les arrêter et les empêcher de connaître la vérité. Fin 2018, l'armée a finalement reconnu sa responsabilité dans l'exécution des paysans, effectivement tués par des soldats et par des membres de milices bouddhistes. La condamnation des journalistes avait soulevé un tollé international et des défenseurs des droits humains avaient exhorté Aung San Suu Kyi, chef du gouvernement birman et prix Nobel de la paix, à user de son influence pour gracier les journalistes. Cette dernière avait refusé d'intervenir, invoquant l'indépendance de la justice et justifiant l'emprisonnement des deux hommes par une enfreinte à la loi. Washington a salué la libération des journalistes, décision prise par le régime birman au nom de l'intérêt national sur le long terme, et les deux hommes, qui ont rejoint leur famille, ont déclaré, je cite, « continuer leur boulot ». Une affaire qui interroge sur la liberté de la presse dans un pays coupable de ce qui n'est ni plus ni moins qu'un génocide contre une minorité musulmane persécutée. On part maintenant en Iran avec toi, Benoît.
Eh oui, les chefs d'État des 27 pays de l'Union européenne ont rejeté aujourd'hui l'ultimatum de Téhéran sur son programme nucléaire, tout en restant précautionneux de toute escalade provoquée par les multiples pressions des États-Unis. Mercredi, Téhéran avait donné 2 mois aux Européens pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement causé par les sanctions américaines, faute de quoi la République islamique renoncerait à ses engagements pris lors des accords de Vienne en 2015. Si les 27 ont rejeté les menaces iraniennes, ils ont réaffirmé leur engagement ferme pour une levée des sanctions au profit du peuple iranien. Washington avait en effet déjà durci ses sanctions économiques mercredi dernier en ajoutant l'acier, le fer, l'aluminium et le cuivre au secteur visé de mesures préventives.
Un point maintenant sur une décision contestée en Turquie. L'AKP, le parti islamo-conservateur du président Erdogan, a fait annuler les élections municipales remportées à Istanbul par l'opposition, évoquant les irrégularités massives du scrutin. Un nouveau vote est prévu le 23 juin et Erdogan espère cette fois éviter une défaite qui serait catastrophique pour son parti. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Erkem Imamoglu, le candidat de l'opposition qui avait remporté le scrutin le 31 mars dernier, appelle à rester mobilisé et dénonce un putsch contre les armes. Un vice-président du Parti républicain du peuple a même parlé sur Twitter du régime actuel comme d'une dictature. Les habitants, eux, dénoncent l'absurdité de la décision de leur président. Certains avancent le fait que les Strambouliotes avaient voté 4 fois, pour le maire de la ville, pour le maire de leur arrondissement, celui de leur quartier et pour le conseil municipal, mais que seule l'élection du maire d'Istanbul a été annulée. D'autres voient la décision du Haut Conseil électoral comme reflet de l'échec de la démocratie et signe de la fin de la légitimité du système électoral turc. Une légitimité déjà fragilisée lorsque le gouvernement avait remplacé des maires kurdes par des administrateurs nommés par le ministre de l'Intérieur après le putsch de 2016. L'enjeu pour Erdogan est donc de taille, remporter le 23 juin des élections cruciales, cruciales car Istanbul est un symbole important, capitale économique et démographique du pays, mais cruciale aussi parce que la ville contrôle des ressources financières conséquentes redistribuées au soutien de l'AKP. On finit donc par des élections en Afrique du Sud. 25 ans après l'apartheid, et alors que le parti au pouvoir a déçu par des mesures économiques inefficaces et par une corruption importante, 27 millions de Sud-Africains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour un scrutin législatif et provincial. Malgré des affaires de corruption, une économie peu dynamique et le fait que 27% de la population soit encore au chômage, c'est le Congrès national africain, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, qui est favori. Le président, Cyril Ramaphosa, qui a pris la tête du pays en 2017 après la démission forcée de Jacob Zuma, devrait donc conserver sa majorité absolue au Parlement. Ce leader syndicaliste, dauphin de Mandela, s'était engagé dans les affaires après son échec à la présidentielle face à Thabo Mbeki. Élu en 2017, il promet aujourd'hui de lutter contre la corruption qui gangrène le pays et de relancer l'économie et insiste sur la rupture avec le passé de l'ANC. Une promesse qui convainc de moins en moins des jeunes déçus par un parti qui n'a pas tenu ses promesses et qui compte encore parmi ses dirigeants des membres de l'ancien clan de l'ex-président Zuma. Un constat qui pousse une part croissante de la population à choisir de voter blanc ou de se tourner vers l'un des deux grands partis d'opposition. L'Alliance démocratique, qui cible la classe moyenne noire mais dont l'image a été ternie par des dissensions internes, et le parti de gauche radicale du charismatique Julius Malema, combattant pour la liberté économique, EFF, un parti qui gagne clairement du terrain dans les townships et séduit les jeunes et les plus pauvres. Si l'ANC est en passe de remporter l'élection, elle a donc encore plusieurs défis à relever pour redresser le pays et rebondir sur les critiques nombreuses que lui adresse une population sceptique.
Il est 20h40 et c'est la fin du journal. On passe maintenant au billet d'ailleurs avec toi Marie et on part au Japon.